Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Marie-Hélène Bonijoli, aumônier à la maison d'arrêt de Nîmes. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Vous tous qui êtes à l'écoute ce dimanche matin ou en podcast, rappelez-vous que nous ne sommes ni plus nombreux, ni plus savants, ni meilleurs que les autres. Il y a parmi nous des Français et des étrangers, des croyants et des peu-croyants, des habitués et des occasionnels. Mais tous, nous sommes en recherche, en chemin. Tous, nous sommes interpellés par l'Évangile, appelés par notre nom, invités au face-à-face. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve et nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille, comme il l'a fait hier et le fera encore demain. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans nos vies. Amen. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous pouvons allumer la deuxième bougie de la couronne de l'Avent pour éclairer notre temps de culte. Ensemble, louons Dieu avec le cantique « Chante Alléluia au Seigneur ». Vous le trouverez dans le recueil arc-en-ciel au numéro 283 ou dans le recueil Alléluia au numéro 41-42.
Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur.
Recueillons-nous pour dire à Dieu notre fragilité, en vérité. Notre Dieu, qu'il est rude parfois, le chemin de la vie. Tellement que nous venons à désespérer. Désespérer des autres, de nous-mêmes ou de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi, j'en fais partie. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible ? Il y a des heures où ta promesse nous paraît vraiment incertaine. Viens toi-même nous relever. Amen. Mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin. Pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie et de confiance et des chemins d'espérance. Amen. Relevés par le pardon, nous chantons « Seigneur reçois, Seigneur pardonne ». Vous le trouvez dans le recueil Arc-en-ciel au numéro 407 ou dans le recueil Alléluia au numéro 4304. Nous allons ouvrir la Bible et écouter la parole de Dieu. Vous serez peut-être surpris ou déçu de ne pas entendre les textes proposés par la Fédération protestante pour ce jour, mais il m'a semblé que l'actualité culturelle et cultuelle pouvait nous interpeller. En effet, en ce week-end du 7 et 8 novembre 2024, la France fête la réouverture de l'un de ses plus emblématiques monuments. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Et concordance des calendriers, cette date correspond à la célébration de l'Immaculée Conception chez nos frères et sœurs catholiques, ou encore à la fête des Lumières de Lyon, en l'honneur de la Vierge Marie. Aussi, je vous propose en ce deuxième dimanche de l'Avent d'écouter l'annonce faite à Marie. Nous prions. Seigneur, au moment d'ouvrir la Bible, nous te prions pour que ta parole nous éclaire et pour que nous comprenions le message que tu as pour nous à travers ces versets. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 28 à 37, dans la traduction de la Nouvelle Français Courant. Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi comme le fut David, son ancêtre, et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle qu'on disait stérile, en est maintenant à son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Nous chantons le cantique « Aube nouvelle ». Vous le trouverez dans le recueil Arc-en-ciel au numéro 301 ou dans le recueil Alléluia, numéro 3114. Après 5 années de restauration, Notre-Dame de Paris rouvre ses portes ce week-end avec un programme riche en événements culturels et cultuels, notamment plusieurs messes en présence de nombreux invités, dont le chef de l'État. Au-delà du bâtiment incontournable de Paris pour les amoureux de culture, d'histoire et de patrimoine, ou pour les simples curieux, il s'agit d'un lieu de culte particulier puisqu'il est consacré par l'Église catholique à la Vierge Marie. Pour les protestants, il est parfois difficile ou délicat de parler de Marie. On entend souvent les gens dire que les protestants, je cite, « ne croient pas à Marie ». Je me suis toujours demandé ce que cela pouvait bien vouloir dire, « croire à ». Il serait préférable de dire « croire en », même si cela ne résout pas ce que signifie « croire ». Ce qui est certain, c'est que les protestants ne dédient pas de culte à Marie. Les dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption n'ont pas de place non plus en théologie protestante. Et nous ne prions pas Marie. Mais aucun protestant n'aurait l'idée de nier l'existence de Marie et le rôle crucial qu'elle occupe dans l'histoire chrétienne. Marie a bel et bien porté et enfanté Jésus, ainsi que nous le lisons dans la Bible. Fort de l'actualité et de cette période de l'Avent qui nous prépare à Noël, arrêtons-nous donc ce matin sur la personne de Marie, et plus exactement sur cette jeune fille, au moment où elle reçoit cette visite de l'ange Gabriel. Les grands peintres ou les grands sculpteurs nous ont souvent représenté cette Marie comme une jeune fille effacée, soumise, une ingénue, béate et comblée. Mais est-ce bien le cas? Je vous propose de mener l'enquête. Un premier indice nous est donné dans un autre évangile, celui de Matthieu, qui, pour dresser la généalogie de Jésus, énumère les noms de ses ancêtres. Nous ne l'avons pas lu car c'est un peu fastidieux, mais vous trouverez cette liste au chapitre 1, les 17 premiers versets. Vous lirez ainsi les noms de 39 hommes et seulement 5 femmes. Alors s'il n'y en a que 5, c'est que cela est précieux pour notre enquête. La première, Tamar, est décrite souvent comme une séductrice, incestueuse avec son beau-père. La deuxième, Rahab, est une prostituée qui aide des espions étrangers. La troisième, Ruth, est une étrangère, issue d'une ascendance incestueuse, celle de Moab, le fils de Lot et d'une de ses filles. Et la quatrième, Bethsabée, est séduite par David qui a fait tuer son mari Uri. Mais ces 4 matriarches, dont les mœurs semblent avoir dérogé aux lois, sont en réalité des modèles, modèles de conversion, prêtes à tous les sacrifices, y compris dans leur chair, pour obtenir ce que la société patriarcale leur refusait. Et elles sont devenues des icônes qui trouvent leur place dans le plan de Dieu, offrant une vraie généalogie à Jésus et à nous une postérité. Et enfin, la 5e femme citée, Marie, dont la maternité a dû paraître bien suspecte à son entourage, car sans mari officiel, un simple fiancé, Joseph, et qui finalement porte l'enfant pour un autre, pour le compte de Dieu et pour nous. Eh bien, Marie s'inscrit dans cette lignée de femmes puissantes, pas si ingénues. Deuxième indice, Marie n'est ni sereine, ni tranquille, puisque l'ange lui-même lui dit « ne crains pas » et dans la version que j'ai lue, « n'aie pas peur ». Il ne le lui dirait pas si elle était pleinement rassurée. D'ailleurs, pour revenir à la réouverture de Notre-Dame de Paris, regardez si vous avez la chance d'y aller ou cherchez sur Internet le visage de la statue de la Vierge à l'Enfant. Cette statue du XIVe siècle vient d'être replacée dans la cathédrale le 15 novembre dernier. Elle avait miraculeusement, alors est-ce le terme, échappé à l'incendie et elle a été retrouvée immaculée à quelques mètres des pierres noircies par le feu. Alors, ce n'est qu'une représentation, nous sommes d'accord. Mais regardez bien la bouche de cette statue. Elle est tordue. Oui, Marie est représentée alors qu'elle tient le petit enfant dans ses bras, alors qu'elle est toute à sa nouvelle maternité, avec une bouche crispée, tournée vers le bas. Oui, Marie est dans la crainte face au projet extraordinaire de Dieu pour elle et pour l'enfant. D'autres artistes ont aussi représenté une Marie pleine d'appréhension. Je pense au retable d'Issenheim au musée de Colmar. Sur le panneau de l'Annonciation, on voit Marie détourner la tête dans un mouvement réflexe. Et sous ses paupières baissées, seules les pupilles de ses yeux semblent chercher d'où vient ce bouleversement. On dirait qu'elle bouge ses pupilles, à toute vitesse, de droite à gauche. Tout son corps est tendu, dans une attitude de presque recul face à l'ange. On est bien loin de l'image d'une Marie toute simple et dévouée, qui serait satisfaite de sa destinée grâce à une confiance absolue. Troisième indice, Marie ose interpeller. Marie n'acquiesce pas sans rien dire, ou plutôt sans rien demander. Elle interroge l'ange, car elle n'accepte pas d'emblée, d'office, ce qu'il lui annonce. Elle raisonne en intelligence, cherche à comprendre comment cela est possible. Presque avec une démarche qu'on qualifierait aujourd'hui de scientifique, puisqu'elle dit « Comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge ?» C'est vrai que nous n'avons pas l'intonation ni de smiley pour nous préciser son ressenti, mais ce qui est certain, c'est que Marie argumente. Même si elle n'est pas rebelle, il n'en demeure pas moins que cette toute jeune fille, elle a entre 12 et 15 ans, cette toute jeune fille réfléchit et questionne. Marie est une femme qui s'inscrirait parfaitement dans notre époque, féministe non pas au sens contemporain du terme, mais une femme libre, qui choisit en conscience et en confiance. C'est son chemin de foi. Pour moi, Marie est une femme qui nous ressemble, non pas un personnage à part, isolé du reste de l'humanité, avec une position hiérarchique supérieure et inatteignable. Par elle, Dieu se fait proche. Par elle, Dieu décline d'une façon nouvelle le courage, le tempérament, le caractère, les choix et l'engagement. Alors non, Marie n'est pas une vierge effarouchée, pardonnez-moi l'expression. Comme le dit Antoine Nouis, pour entendre ce que Marie a à nous dire, il fallait commencer par lui rendre son humanité toute simple, afin de lui redonner cette proximité qui en fait une sœur dans la foi. Et Marie est non seulement sœur dans la foi, mais aussi prophète à ce moment-là. Plus tard, elle sera aussi disciple à partir des noces de Cana, mais ne brûlons pas les étapes, et ce matin, concentrons-nous sur l'Annonciation et cette grossesse. Lorsqu'elle répond « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole », Marie se situe dans la lignée des prophètes, qui en fait un pas en avant en acceptant, après réflexion et tergiversation, de se mettre au service de Dieu. Servante, ce mot résonne peut-être comme soumise, obéissante, esclave. C'est en outre une traduction possible. Mais ne nous trompons pas. Marie, en prophète, incarne déjà l'Évangile. Elle préfigure celui qui sera le plus grand serviteur. Comme l'écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, Jésus-Christ a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains, il a été reconnu comme un homme, il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Marie annonce que lorsqu'on s'abaisse, Dieu vient à nous. La seule façon d'être élevé, c'est de se mettre au service les uns des autres. Et Marie choisit ce chemin de foi. Elle choisit de dire oui à Dieu. Elle nous montre que la foi n'est donc pas incompatible avec les questionnements. Elle nous montre que c'est surtout la confiance en Dieu qui nous libère de la peur et qui nous met en route, qui nous fait vivre. Elle le clame quelques versets plus loin dans un psaume, un cantique de louange que nous appelons le Magnificat. En reprenant des passages entiers de l'Ancien Testament, elle chante sa foi. Mais ce chant, qui traduit aussi notre propre foi, dit que c'est Dieu qui nous aime le premier. C'est son amour qui nous permet de croire avec gratitude et joie. Marie nous rejoint avec ce psaume parce qu'elle annonce notre relèvement, notre restauration. En un mot, la résurrection. Son témoignage, c'est celui de l'amour de Dieu pour chaque être humain. Amour qui s'est concrétisé en Jésus le Christ qu'elle a porté de sa naissance jusqu'au pied de la croix. Et nous, chrétiens, nous pouvons dire merci. Merci à Marie pour son courage, sa force et son dévouement comme servante du Seigneur. Véritable modèle de foi pour nous. Face à toutes les incertitudes, face à nos incompréhensions de ce que devient le monde et de ce que Dieu nous demande, il nous est dit, comme à Marie, ne crains pas. Et comme elle, nous sommes appelés à surmonter nos craintes et à faire confiance. Au moment où elle accepte le plan de Dieu, Marie n'en connaît pas les contours, ni les étapes les plus douloureuses qui viendront. Mais elle dit oui à Dieu et se tient prête. Lorsque les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris retentissent, c'est ce oui qui résonne. Qu'il soit le nôtre aussi. Amen. Nous chantons le cantique « Tu me veux à ton service » dans le recueil arc-en-ciel au numéro 427 ou dans le recueil « Alléluia » au numéro 4407.
Que j'ai, tu le possèdes. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur.
Nous confessons notre foi avec Marie dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 46 à 56. Marie dit « Je », mais faisons nôtres ces paroles. De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant, et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humiliés au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Amen. En cette période de l'Avent, je vous invite à un temps d'intercession avec les chrétiens de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Tendons la main à nos frères et sœurs en humanité privés de liberté, qui souffrent en silence, trop souvent oubliés. Pour Sharifeh Mohammadi et Pakshan Azizi, en Iran, condamnés à mort pour leur engagement pacifique après avoir été soumises à des actes de torture pour obtenir des aveux forcés. Prions pour elle. Pour Wendy Galarza, au Mexique, torturée, blessée par balle par la police lors de la répression punitive d'une manifestation contre les féminicides, elle réclame justice. Prions pour elle. Pour Wai Krek Bia, au Vietnam, chrétien évangélique issu de la minorité des montagnards des Hauts-Plateaux, militant pour le respect de la liberté religieuse, condamné à 13 ans de prison, prions pour lui. Avec Floriane Irangabay au Burundi, chroniqueuse radio, critique du gouvernement, condamnée à 10 ans de prison, libérée à la suite d'une forte mobilisation après 2 ans d'incarcération, réjouissons-nous et persévérons. Ensemble, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Cieux, que
Recevons maintenant la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen. Avec Edgar Poe, les entendez-vous qui sonnent, en éclats elles sautent et tourbillonnent. Oh, les cloches d'argent qui dansent et fredonnent. Bon dimanche à tous.
Hark at the bells, sweet silver bells, all seem to say throw cares away.
Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong ding dong, that is the song, with joyful ring or caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they bound, raising the sound, all in the dead.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Marie-Hélène Bonijoli, aumônier à la maison d'arrêt de Nîmes. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.
Is this all?